Donc, nous allons commencer une nouvelle série. Et voilà, ça fait plusieurs mois que je suis travaillé par Dieu par rapport à ça, parce que c'est vrai que, et c'est très moderne aussi dans l'Église, on a beaucoup la tendance à faire des séries ou à prêcher des messages en fonction d'un thème. Maintenant, c'est très comme ça. Bon, ben voilà, on va parler du prophétique, on va parler de la guérison, on va parler de... Et on dit, ben voilà, on va chercher un peu plein de versets dans la Bible qui se rapportent à ça. Et il y a aucun mal à faire ça. C'est vraiment super de pouvoir fouiller des thèmes et de pouvoir les développer. Mais il y a un problème quand on fait que ça, c'est que du coup, c'est nous qui décidons. Bon, bien sûr, on est conduit par l'esprit, mais c'est nous qui, si vous voulez, on fait dire à la Bible un petit peu ce qu'on a envie. Et même si quand on écrit des messages, c'est vraiment le Saint-Esprit qui nous parle, on a pensé que c'était important de garder cet équilibre aussi, que des fois, on va dire, ben, on va étudier un livre de la Bible. Et on va comme ça le décortiquer un petit peu pour voir qu'est-ce que la Bible décide de nous dire par elle-même, sans que nous on décide de passer d'un passage à un autre, mais que vraiment on puisse s'attarder et comprendre le message global d'un livre et vraiment pouvoir être édifié par la parole. Amen. La parole de Dieu, acte 6, verset 7, se répandait de plus en plus. On a vu ce verset dans la formation. Se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. C'est la parole de Dieu elle-même qui se répand. Parce qu'en fait, la parole de Dieu, elle est puissante par elle-même. Dès qu'on la lit, tac, elle nous touche et on peut lui faire confiance pour nous guider, pour nous conduire. Donc là, on a eu à cœur de parler sur l'évangile de Marc. Donc c'est moi qui vais commencer aujourd'hui. Et ben c'est bien parce que ça nous permet de balayer un peu le livre et puis il y a des versets, vous savez que parfois c'est confortable pour nous de les sauter un peu quand ils sont un peu difficiles, soit à expliquer, soit qu'on a l'impression qu'ils sont contradictoires avec d'autres choses. Donc là voilà, on va vraiment se laisser guider par le livre de Marc pendant les 5-6 prochaines fois qu'on fera cette série. Et je vous promets, on n'éludera pas les questions difficiles, au contraire. Et moi, je n'ai pas fait malheureusement d'études de théologie, à la fac de Théo. Je me suis formé différemment. Mais s'il y a un truc qui me fait envie dans le fait de faire, si j'avais pu faire comme ça, c'est vraiment d'avoir cette érudition sur le fait de fouiller les étymologies, tout ça, et de bien comprendre. Mais merci Seigneur, on a notre Bible, on a le Saint-Esprit. On a aussi Internet et plein de théologiens qui font ça pour nous. Donc, on va bien étudier ce livre. Ça vous dit ? Bon, génial. Ben, malheureusement, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Donc, tant mieux. Donc, le livre de Marc. Donc, juste quelques mots sur l'auteur et la structure. Donc, Marc, en fait, c'était un ami et un fils spirituel de Pierre, l'apôtre Pierre, Simon devenu Pierre. Et il a écrit son évangile aux environs de 65 après Jésus-Christ, bien sûr. Et c'était la période, à peu près, à quelques années près, c'était la période où Pierre est mort à Rome. Et on pense, les théologiens pensent qu'il a probablement écrit d'ailleurs cette épître depuis Rome. Donc, prioritairement pour des non-juifs, on va dire. Mais bien sûr, il s'adresse aussi aux juifs, et puis il s'adresse aussi à nous aujourd'hui, juifs ou non-juifs. Et Marc, qu'on a aussi appelé Jean, dans les actes, et notamment on le voit dans acte 12, c'était en fait le cousin de Barnabas. Et vous savez, on le connaît malgré lui les actes. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui est à l'origine de la scission entre Paul et Barnabas. En fait, c'est sur son cas à lui, il y a eu une dispute entre lui et Paul, a priori, et Barnabas, cet encourageur, celui qui voit toujours le positif dans les personnes, dans les situations, eh bien, il a dit « Non, non, moi, je ne me sépare pas de lui, je le garde avec moi. » Et Paul, du coup, est parti avec Silas. Donc, il est au cœur de cette séparation. C'est quand même un personnage important du Nouveau Testament. Et en gros, si on survole l'évangile, la structure et le style, en fait, on va dire, de cet évangile, c'est que il est très court, cet évangile, et c'est beaucoup dans l'action. Donc, en fait, Marc, il s'est attardé sur les faits et les faits et gestes de Jésus. C'est un mouvement perpétuel, c'est pas un évangile où il y a des temps de pause, au contraire, il y a beaucoup de soudain, il y a beaucoup de d'un coup, il y a beaucoup de comme ça, on passe d'une situation incroyable à une autre en suivant Jésus, en tout cas en suivant tous les faits que Pierre a rapportés à Marc, qui n'était pas là directement dans toutes ces situations. Voilà, et ça commence. Et aujourd'hui, moi, au début, je voulais diviser le livre en 5 ou 6 parties. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que quand même, bon, déjà, je vous raconte tout ça. J'ai déjà passé quelques minutes un peu d'introduction. Mais aussi, j'ai réalisé vraiment que les premiers versets, au début, je voulais parler des 3 premiers chapitres, mais je me suis rendu compte qu'en fait, rien que dans le premier chapitre, il y a tellement de choses à dire. Et puis, ça annonce un peu la couleur de ce qui se passe dans le reste de l'évangile. Donc là, on va passer du temps juste sur Marc 1, et puis ensuite, on avancera un petit peu plus vite sur certains autres chapitres. OK ? Donc, je vais lire le début, puis je m'arrêterai un petit peu quand je sens que ça suffit. Je ne vais pas vous lire tout le chapitre. Mais merci Seigneur pour cet évangile de Marc. Et c'est parti, on plonge dedans. Donc, Marc 1, à partir du verset 1. C'est ainsi qu'a commencé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe. « J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin. » On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. « Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers tout droits. » Jean parut. Il baptisait dans le désert. En effet, il appelait les gens à se faire baptiser pour indiquer qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Tous les habitants de la Judée et de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Jean était vêtu d'un vêtement de poil de chameau maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et voici le message qu'il proclamait. « Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, vous voyez, tout s'enchaîne vite, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix retentit à l'heure du ciel. « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Aussitôt après, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Il y resta 40 jours et il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Je continue un tout petit peu. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait, verset vraiment charnière, écoutez surtout bien ce verset dans le chapitre, « Le temps est accompli. » Le temps est accompli. Le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Un jour, comme il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André, son frère. Ils lançaient un filet dans le lac, car c'était des pêcheurs. Jésus leur dit, « Suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit un peu plus loin Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Eux aussi étaient dans leur barque et réparaient des filets. Aussitôt, il les appela. Ils laissèrent Zébédée, leur père, dans la barque avec ses ouvriers et suivirent Jésus. Et je m'arrête là. En fait, donc là, on est au verset 20. Et à partir de ce verset jusqu'au verset 45, donc là, l'autre moitié, en gros, du chapitre, c'est une succession de miracles. Jésus guérit tantôt lépreux, délivre des gens de démons, il y a la belle-mère de Pierre qui est guérie, voilà, il y a 4 ou 5 miracles, on le verra après, mais ensuite c'est vraiment ces miracles. Donc voilà, merci Seigneur pour ta parole si riche. Donc je vais vous dire les choses un peu importantes que j'ai relevées dans ce passage et que j'ai vraiment senti Dieu me dire qu'on puisse partager ensemble. Et donc, ça commence verset 1. « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, conformément à ce qui était écrit dans les prophètes. » Et là, c'est important de voir le mot « commencement ». En fait, Marc a choisi de commencer son livre par « commencement ». Et bien sûr, ça rappelle un autre livre de la Bible qui commence par « au commencement ». C'est la Genèse. Et je vous ai dit ce verset, le temps était accompli. Parce qu'en fait, à ce moment-là, c'est un nouveau départ. Il y a eu l'Ancien Testament, il y a eu toute la période du peuple d'Israël et des prophètes. Et là, 400 ans entre Malachie et Jésus, les prophètes se taisent. Et là, d'un coup, de nouveau un commencement. De nouveau, Jésus s'adresse à Dieu. Dieu s'adresse à son peuple au travers de son fils Jésus. Donc, Marc veut vraiment... Les choses anciennes sont passées. Voilà, maintenant, c'est les choses nouvelles. Jésus est là. Il va décrire un peu plus pourquoi. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est Marc 16, verset 15. Parce que plusieurs fois ensuite, je l'ai lu, il est mentionné cette expression de bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est un commencement et il y a une bonne nouvelle. Et les amis, moi, très concrètement ce matin, je voulais te demander à toi qui es dans la salle, est-ce que pour toi, c'est toujours une bonne nouvelle? C'est toujours une bonne nouvelle qui change tout. Quand tu te rends compte que tu es sauvé par Jésus, quand tu te rends compte de son évangile, est-ce que pour toi, ça reste une nouvelle extraordinaire, tellement extraordinaire qu'elle influe sur ton quotidien? Et je veux nous exhorter, les amis, à ne pas nous refroidir et à réaliser que ce qui est dit dès le début de cet évangile, cette bonne nouvelle, c'est pour nous chaque jour. De ne pas perdre notre premier amour, comme dit l'Apocalypse, mais de garder et chaque jour être renouvelé dans cette joie du salut. J'étais perdu, Jésus est venu, ma vie a pris un nouveau départ, une bonne nouvelle, et ma vie a changé. Amen, une bonne nouvelle. En effet, ensuite, il est parlé du coup du mot Messie, Christ, Fils de Dieu. J'enverrai mon messager devant toi. Préparez le chemin. Merci. Il est parlé du mot Messie. Et en fait, le Messie, qu'est-ce que c'est l'étymologie du mot Messie? Ça veut dire oint. Et ça veut dire, attendez, excusez-moi parce que je me perds dans mes notes. Voilà, transcription de l'hébreu, Messiah. Le mot Christ, en fait, c'est la même chose qui vient du grec Christos. Et la traduction, en fait, la traduction du grec Christos, c'est Messiah. Et les deux mots, Messie et Christ, sont des synonymes qui veulent dire oint. Et en fait, ça, nous, on le lit avec nos yeux de 2022. Mais c'est vrai que, vous le savez, les prophètes, avant dans l'Ancien Testament, parlaient, et il est mentionné, on en a beaucoup parlé à Noël, le nombre de prophéties, il n'y a pas qu'Ésaïe, il y en a plein, Jérémie, plein de prophètes, prophétie après prophétie, qui annonce la venue d'un sauveur, qui annonce la venue d'un Messie. Le problème, c'est que les Juifs de l'époque vont prendre ça pour quelque chose plus de politique, en fait. Ou bien sûr, vous savez, au moment où tout ça est écrit, c'est l'Empire romain qui a colonisé la Palestine. Et du coup, les Juifs prennent ça comme, ça y est, le Messie, le libérateur va venir, on l'attend. Mais ils pensent que c'est quelque chose qui va les délivrer de l'Empire romain. C'est quelque chose, vraiment, un nouveau roi, il va remplacer David, et la grandeur d'Israël va être restaurée. Ils s'attendent vraiment à quelque chose de ça, dans ces choses de politique. Vous voyez? Et en fait, Jésus, il ne se fait pas appeler comme ça, mais souvent, il va plutôt utiliser l'expression Fils de l'homme, parce qu'il veut, on va le voir un peu plus, prêcher par ses actes plutôt que par ce qu'il dit de lui. Il veut que ce soit la manière dont il se conduit qui parle pour lui. Et en fait, il va décliner qu'est-ce que ça veut dire en fait ce mot Messie, quel royaume lui est venu amener. C'est pas le royaume que les Juifs pensent ou les non-Juifs à l'époque qui entendent parler de ça. C'est un royaume qui est différent. C'est un roi différent pour un royaume différent, avec beaucoup plus de profondeur. Amen, Seigneur. Amen, Seigneur. Versets 2 et 3. Selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, j'enverrai mon messager devant toi. Il préparera le chemin. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Et en fait, Jean, bien sûr, était le cousin de Jésus. Et lui commence à prêcher le royaume, à prêcher la repentance et le pardon des péchés. Et en ça, il ouvre la voie, il commence à préparer les cœurs, et déjà on voit des foules entières qui viennent se faire baptiser. Et c'est là qu'on voit que c'était une réelle bonne nouvelle pour l'époque, parce que ça avait un succès incroyable. Les gens vivaient dans une attente de quelque chose, et clairement la faveur de Dieu est sur Jean-Baptiste, et presque ils le prennent pour un des prophètes de l'Ancien Testament. Ils disent, mais voilà, mais c'est Élie qui s'est réincarné. Et on peut faire un parallèle entre lui et Élie, d'ailleurs. Et les gens viennent, et il nous est dit qu'ils viennent en se repentant de leurs péchés. Voilà, baptisés et indiqués qu'ils changeaient de vie afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Et j'en parle déjà de quelqu'un qui va venir et qui sera plus grand que lui. Et nous, pour nous, aujourd'hui, pareil, un parallèle. Combien c'est important. Comme les Juifs de l'époque attendaient un sauveur, nous aussi, nous avons besoin de sauveur. On parle souvent de l'indépendance de l'homme qu'il a fait devoir quitter le jardin d'Éden. Mais comme nous, en tant que chrétiens, parfois aussi, on peut raisonner un petit peu comme ça, en indépendance. On peut faire nos choix par nos propres pensées, nos propres inspirations. Mais non, on a besoin de toujours être dans cette réalisation que Dieu est notre sauveur. Dieu est là, nous ne sommes pas seuls, ce n'est plus nous qui dirigeons nos vies, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vient à moi et nous avons besoin de réaliser qu'il est notre sauveur et notre Seigneur. Et du coup, de changer par rapport à reconnaître ce besoin pour changer, pour être pardonné de leurs péchés. Et en fait, le péché, ben, c'est important. Parlons un peu du péché de 2 secondes. Le péché, c'est important. Pareil, c'est quelque chose qui peut nous faire peur de parler des fois dans une église. Ce n'est pas très populaire de parler du péché, de parler de nos mauvaises actions. Donc, en gros, le péché, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est nos fautes, bien sûr. Ça, on le sait. Mais littéralement, en araméen, Luc en parlait la dernière fois, ça veut dire manquer la cible. Jésus en parlait en araméen. Et dans cette langue vieille, langue ancienne, ça veut dire manquer la cible. Et ce qui est fort dans le ministère de Jean-Baptiste, c'est que les gens accouraient, ils reconnaissaient leurs péchés. Donc publiquement, comme c'est écrit, ils reconnaissaient qu'ils avaient manqué la cible, reconnaissaient qu'ils étaient fautifs. Et on sait que la loi de Moïse demande tellement de rigueur, demande tellement, il y a cette exigence de la loi qui est tellement haute. Ils arrivaient, ils reconnaissaient. Et ayons un cœur comme ça aussi, qui reconnaît. Nous le savons, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Le salaire du péché se manifeste dans la mort. Et nous le voyons quand nous fautons. Nous voyons la mort qui se manifeste, les conséquences mauvaises qui viennent, petites ou grandes. Parce que c'est un fait, c'est une vérité. Le salaire du péché, la conséquence, si vous voulez, du péché, c'est la mort. Mais c'est très important de ne pas rester là-dessus. C'est un état de fait. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais attention, on en parlait hier entre amis, j'ai vraiment reçu cette révélation au travers d'un bouquin que je suis en train de lire encore ces derniers jours. Attention au danger de l'évangile par la peur. L'évangile par la peur qui se focalise sur le péché. Là, il nous est parlé de changer. Il nous est parlé de repentance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, déjà, amène une solution. Je peux changer, je peux me repentir. Et la repentance, ça vient du mot grec « metanoia ». Et ça veut vraiment dire changer. En fait, en français comme en grec, ça veut dire changer, finalement. Et surtout changer de manière de penser, changer de manière de voir les choses. Du coup, forcément, nos actions vont être changées. Si je change mes pensées, je vais changer mes actions. Et il y a ce verset tellement important par rapport à ça, pour ne pas être conduit par la peur. Et c'est important, les amis, qu'on ne soit pas là avec ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, de ne pas être là, oui, le salaire du péché, c'est la mort, repens-toi. Sinon, les gens vont venir à Christ par la peur. Mais la peur, ce n'est pas bon. La peur, ce n'est pas bon. Et ça me rappelle un exemple de ma vie. J'ai fait beaucoup, j'ai fait des saisons. J'étais saisonnier, en fait, il y a quelques années. Maintenant, ça commence à remonter, l'hiver et l'été. Et il y avait beaucoup la fête. C'était des périodes où je me suis beaucoup éloigné de Dieu. Et je me rappelle revenir dans un week-end d'église une fois, dans une réunion. Il n'y avait pas eu de prédication, il n'y avait pas eu d'appel, rien. Juste la présence de Dieu dans la louange. J'ai senti l'amour de Dieu venir sur moi et j'ai éclaté en sanglots. À l'époque, je ne sais pas, je devais avoir 23 ans, 24 ans, peut-être 22 ans, quelque chose comme ça. Ce n'est pas mon genre de pleurer comme ça publiquement, mais surtout là, c'est des pleurs, des sanglots que vous ne pouvez pas retenir. Parce que j'étais juste touché par l'amour de Dieu, pas du tout de culpabilité. Juste son amour où je réalisais, j'ouvrais les yeux. Et il n'y a rien de plus puissant que ça, en fait. Parce que, comme le dit Romains 2, 4, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. La bonté. Et si nous voulons gagner des âmes, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Oui, le péché mène à la mort. C'est un état de fait. Mais ce n'est pas ce qui doit conduire les gens au Seigneur. Ce qui doit conduire les gens au Seigneur, c'est quoi? C'est le Seigneur. C'est lui. C'est qui il est. C'est son amour. Amen. La Bible dit que Dieu est amour. Et je vais vous relire ce livre pour étayer un peu cela. Dieu ne veut pas une relation basée sur la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour, c'est dans la Bible. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4, verset 18. En fait, si on est dans la crainte, si on est dans la peur, on prêche le mauvais évangile. C'est quelque chose qui va éloigner les gens de Dieu. Ou alors, ils vont donner leur vie à Christ, mais pour de mauvaises raisons. Et plus tard, ça va être tellement dur d'avoir la révélation du cœur du Père. Comment voulez-vous avoir la relation du cœur du Père qui me fait peur, qui vient pour me juger, même si c'est vrai, c'est un état de fait. Mais Dieu ne s'adresse pas à nous comme ça. Comment il s'est adressé à nous? Il a envoyé son Fils, parce qu'il a tant aimé le monde. Amen. C'est très important. Baptême de Jésus. Verset 11, Jésus est baptisé. Encore une fois, un passage tellement charnière. Il est baptisé par Jean dans le Jourdain, verset 11. Au moment, verset 10, au moment où il sortait de l'eau, le ciel s'ouvrit, l'Esprit descend comme une colombe, et une voix se fait entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Ou dans la version Semeur, « Tu fais toute ma joie. » Et mon ami, ce matin, je veux te le dire, voilà comment Dieu te voit ce matin. Voilà, et c'est incroyable, et on le dit tellement souvent, mais c'est essentiel. Peut-être toi, tu ne l'as jamais entendu ici ce matin. Le Père, il ne fait pas de détails, ce n'est pas une vision, une chose. Non, il y a une voix qui se fait entendre, une voix que tout le monde peut entendre, qui proclame cette vérité sur Jésus. Dieu veut vraiment que personne ne rate ça. C'est avant que Jésus ne fasse le moindre miracle, avant qu'il fasse quoi que ce soit, avant de commencer son ministère, avant que Jésus fasse des choses pour Dieu publiquement, il y a cette fondation. Pour ceux qui étaient au groupe Fondation, c'est important les fondations. C'est important sur quoi je base ma théologie, je base ma vie. Il y a cette fondation. Tu es mon Fils bien-aimé. L'approbation du Père. Et aujourd'hui, Dieu te dit la même chose. Peut-être que tu dis, mais moi, je ne suis pas un bon chrétien. Je manque encore la cible. Je pêche parfois. Je n'arrive pas à me sortir de telle addiction. Je n'arrive pas à me sortir de telle habitude. Dieu a un regard d'approbation sur toi. Ça ne veut pas dire qu'il se régale de te voir galérer dans ces choses-là. Mais Dieu t'aime, tu es son enfant. Il est fier de toi, quoi qu'il arrive, il est fier de toi. Tu es son enfant. Et il dit, la même voix qui est venue pour Jésus dans le désert, entends-la pour toi aujourd'hui. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Tu fais toute ma joie. Quand le Père te voit, il est joyeux parce qu'il t'aime, parce que tu es son enfant. C'est comme nous, quand on voit nos enfants faire des bêtises, tout ça, mais c'est important de leur dire, rien de ce que tu peux faire ne me fera moins t'aimer. Et c'est pareil pour toi ce matin. Rien de ce que tu peux faire ne fera que Dieu t'aimera moins. En bien ou plus, si tu fais bien ou moins bien, si tu ne fais pas bien. Rien, absolument rien. C'est une fondation essentielle pour nous, les amis. Amen. Et donc tout de suite, hein, comme j'ai dit, ça passe d'épisode en épisode, on est dans la tentation de Jésus. Et Jean ne s'attarde pas sur cet épisode, et vous pouvez lire dans les autres évangiles, hein. Jésus jeûne pendant 40 jours, on sort nous aussi d'une semaine de jeûne, Jésus c'est pendant 40 jours, et puis bien sûr, c'est ce moment-là où Satan choisit pour intervenir, mais c'était aussi conduit par l'Esprit, mais Satan vient et il met Jésus à l'épreuve. Et bien sûr, Jésus le répand en citant la parole de Dieu. Et il sort vainqueur. Et comme on l'a dit, il y a ce fil conducteur un peu de haut commencement, de la bonne nouvelle. Et là, c'est pareil. Jésus, en fait, la Bible nous dit, c'est le nouvel Adam, le dernier même, le dernier Adam. C'est encore ce rappel à la Genèse. Parce qu'Adam a été tenté avec Ève et il a chuté. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Il y avait une chose à respecter dans le jardin d'Éden, il n'a pas réussi à la respecter. Mais Jésus, lui qui est venu, Dieu sur terre, lui a réussi. Lui a réussi et c'est le dernier Adam. 1 Corinthiens 15, 45. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Amen. Parce que c'est pareil, Jésus nous a montré, conduit par l'Esprit. Si nous aussi nous voulons déjouer les plans de l'ennemi, conduit par l'Esprit, de ne pas vivre selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen, les amis. Merci John Joe, que tu arrives à suivre complètement bien le PowerPoint. Génial. Et là, il y a ce fameux verset que je vous ai dit, cette bascule. Verset 14. Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. À nouveau la bonne nouvelle. Il disait, le temps est accompli. Le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Il dit les mêmes choses que son cousin. Le temps est accompli. Phrase très messianique qui laisse penser aux Juifs que ce Messie va rétablir, comme je vous ai dit au début, le royaume d'Israël et chasser les Romains. Mais Jésus tout de suite, il commence à exprimer son royaume de manière très attendue. J'ai oublié de vous dire, très important sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, donc, vous savez, est exécuté par Hérode. Pourquoi ? Parce qu'il a ce courage. Quel homme inspirant. Il a ce courage de remettre en question Hérode qui a pris la femme de son frère. Et du coup, pour lui plaire à sa fille, il apporte la tête de Jean-Baptiste sur un plateau, parce que Jean-Baptiste a osé parler, parce que Jean-Baptiste était conduit par l'Esprit. Et je pense que c'est sûr, on est depuis tout le temps, mais encore aujourd'hui, osons parler. On ne va pas toujours avoir la tête coupée, merci Seigneur, mais osons parler, soyons conduits par l'Esprit et osons dire quand ce n'est pas possible. Quand ce n'est pas possible, aujourd'hui, bah, peut-être Peter, il aura l'occasion de témoigner de ça, mais il a vraiment un témoignage très puissant par rapport à cette chose-là. Osons dire, quand ce n'est pas possible, quand Dieu est maltraité dans des conversations qu'il en est, ou des fois, c'est, vous savez, quand on est au lycée, à l'école ou quoi, dans des cours, il y a des affirmations, parce que l'esprit de ce monde est vraiment anti-Dieu, absolument. Et il nous dit, ben voilà, on est dans une religion toujours à... Osons, les amis, osons comme Jean-Baptiste, cet homme incroyable. Et rempli d'humilité aussi, qui dit qu'il n'est pas digne de dénouer la lanière des sandales de Jésus. C'est son cousin, c'est presque son concurrent dans le ministère. Lui, il a un ministère, des foules entières viennent, les pharisiens, tout le monde vient, attaque à genoux. Et d'un coup, son cousin arrive et la vedette est sur lui. Mais bon, il sait, par la foi, il le savait, hein, que c'était lui. Mais quand même, sur la fin de sa vie, c'est dur. Il dit, est-ce qu'on doit en attendre un autre ? Parce que, voilà, il est en prison, c'est quand même difficile. Mais il dit, je ne suis pas digne d'enlever la lanière de ses sandales. Quelle preuve de... C'est qui a enlevé la lanière des sandales ? C'était les esclaves. Et donc, Jean se met comme l'esclave de Jésus, l'esclave de Christ, comme nous, nous sommes appelés à être aussi esclaves de Jésus-Christ, comme Paul dit. Amen. Du coup, je reprends le fil, cette bascule, parce qu'on le voit plus clairement dans d'autres évangiles, l'arrestation de Jean, c'est le moment décisif où Jésus commence son ministère. Le temps est accompli. Mais comme je vous ai dit, Jésus, il ne veut pas paraître comme ce sauveur politique qui va s'imposer par la force. Non. Qu'est-ce qu'il fait, verset 17 ? Il va choisir ses disciples. Alors que, comme on le dit aussi souvent, à l'époque, c'était des disciples, des futurs disciples qui choisissaient un maître. Ils disaient, ah ben, lui m'inspire, je veux le suivre. Et nous, on le fait. Moi, j'ai plein de gars que je suis, des pasteurs, des gens qui m'inspirent, des modèles. Pour moi, il n'y a rien de mal à ça. Mais Jésus, justement, vient et fait complètement à l'envers. C'est lui qui choisit ses disciples. Et dans Jean 15, 16, il y a vraiment une doctrine qui est enfoncée de manière très puissante. Ce n'est pas vous, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et comme Jésus a choisi tous ses disciples, les quatre premiers qu'on a vus dans ce chapitre, Jésus t'a choisi toi. Oui, moi j'ai beaucoup de mal avec cette phrase qui est utilisée dans l'Église, libre arbitre. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de libre arbitre, parce que Jésus, il nous a choisi. C'est écrit dans la parole, avant la fondation du monde. Donc c'est dur d'avoir un libre arbitre sur nous-mêmes avant la fondation du monde. Je ne dis pas qu'on n'a pas l'acceptation et ce choix d'accepter l'amour de Dieu. Mais je crois que Dieu est au-dessus de tout ça et qu'il a manifesté son amour envers chacun de nous de manière tellement puissante que c'est très compliqué de résister. Moi, à cette époque-là dont je vous parlais, ce premier témoignage, j'ai beaucoup essayé de résister. Je me suis beaucoup éloigné de Dieu. J'ai beaucoup voulu faire moi-même. Mais à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si, je dis souvent, j'avais un élastique derrière moi et j'essaie de fuir Dieu. Non, je veux faire la fête, non, moi, je vais réussir ma vie. Et au bout d'un moment, il se passait des trucs, des gens venaient me voir, des Olivier, d'autres amis de l'époque, et je ne pouvais que lâcher devant la pression de l'amour de Dieu dans ma vie. Et vous savez, quand vous avez l'élastique d'un coup qui se déteint, je ne pouvais pas résister à l'amour de Dieu. Et j'aime avoir comme ça, et c'est pour moi une explication de ce verset. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Amen. Et ils n'avaient aucune idée, les disciples, de qui était Jésus à ce moment-là. Jusqu'au bout, en fait, même après la résurrection, ils vont encore douter. Ils ne comprenaient pas vraiment. Ils n'avaient aucune idée de qui il était, mais ils n'ont pas pu lui résister. Et c'est un des trucs que j'aime bien dans la série The Chosen, c'est qu'il y a, il y a vraiment Jésus, il est presque irrésistible. En fait, vous le voyez dans son caractère, dans comment il est, dans comment il s'adresse aux gens, aux petits comme aux grands, il est irrésistible. Et j'aime à croire que Jésus est irrésistible. Il est tellement beau, il a tellement, il est Dieu, donc il a tellement cette profondeur en lui. On ne peut pas lui résister. Et Jésus, voilà, au travers de tout ça déjà, il est venu, en fait c'est 11h58, donc au travers de la suite aussi, c'est-à-dire de tous ces miracles. Donc ensuite, il y a un lépreux qui est guéri, verset 24. Non, d'abord quelqu'un qui est délivré. Tais-toi, sors de cet homme. Il y a ce démon, c'est incroyable, verset 24, qui dit « Que veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous détruire ? Je sais qui tu es. Tu es le Saint envoyé par Dieu. » Ça, c'est un démon qui dit ça. Et c'est incroyable de voir à plusieurs reprises dans le chapitre aussi d'après de Marc que les démons savent qui est Jésus et ils le disent publiquement comme ça. Et Jésus les fait taire pour deux raisons. Bon, déjà, parce que c'est pas terrible d'entendre des démons parler. Enfin, on peut les chasser, merci, au nom de Jésus, mais c'est pas terrible que ce soit eux qui aient la parole. Mais quand même, ils voient juste, les démons croient en Dieu, et Jésus veut y aller mollo, il veut pas que sa popularité grandisse trop vite, parce qu'il a beaucoup de choses à faire avant d'aller sur la croix, et du coup, il les fait se taire, il le chasse, du coup. Mais ça, je voulais dire ça aussi pour insister, les amis, c'est pas qu'une question de croire. C'est pas qu'une question de croire, la foi en Dieu. Croire, c'est la première étape, mais ensuite c'est de devenir des disciples. C'est pour ça qu'on dit toujours et encore plus récemment, on ne veut pas faire juste des croyants, on veut faire des disciples, parce que les démons aussi croient en Dieu. C'est un fait, Jésus est Dieu, les démons le voyaient, le sentaient, l'identifiaient. Mais ensuite c'est, est-ce que je plie le genou et est-ce que je le suis? Est-ce que je deviens un disciple? Est-ce que c'est lui qui vit en moi? Amen. Croire n'est pas suffisant, les amis, ou alors il faut que ce soit vraiment une foi qui naturellement nous transcende dans le fait de devenir disciples. Et du coup, ils n'avaient aucune idée de qui était Dieu. Donc il y a ce premier miracle, ensuite il y a la belle-mère de Pierre, puis le verset 34 dit « Il guérit beaucoup de personnes, chassa aussi beaucoup de démons. » Verset 39, « Chassé des démons par toute la Galilée. » Et verset 40, il y a la guérison d'un lépreux. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Oui, je le veux. Sois pur. Et en fait, je vais finir là-dessus. Qu'est-ce que Jésus a voulu nous montrer et qu'est-ce qui est dit de nous, notamment dans ce passage? Il y a cette bascule de changer, de croire cette bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? Oui, Jésus, moi, je suis le Messie, mais d'un nouveau royaume. Et comment se manifeste par ce royaume? Il se manifeste par Jésus qui nous choisit. Il nous choisit, nous sommes enfants de Dieu. Il nous veut avec lui. Le Père nous veut avec lui. Le Père veut rassembler ses enfants. C'est pour ça que Jésus nous choisit. Donc c'est beaucoup plus que quelque chose de politique ou quelque chose de... Peut-être qu'ils étaient un peu déçus à l'époque, mais ça va bien plus loin que ça. C'est notre identité profonde. Jésus renverse tout. Tout est accompli. Et puis deuxièmement, il fait tous ces miracles. Tous ces miracles. Et qu'est-ce que ça veut dire, ces miracles? Qu'est-ce que sont en fait les miracles? Ce sont, on dit, des signes et des prodiges. Pourquoi? Parce que c'est des signes qui renvoient vers qui est Dieu. C'est comme des panneaux indicateurs pour montrer qui est Dieu. Et est-ce que Dieu, selon vous, fait tous ces miracles, Jésus fait tous ces miracles pour démontrer combien il est puissant? Non, on vient de dire, il n'est pas là pour ça. Il fait ça pour nous montrer combien il nous aime. Il est dit, je ne sais plus où je l'ai noté, mais il fut pris de pitié. Ben, c'est ce lépreux, j'ai perdu la référence, mais vous regarderez. Ce lépreux, il fut pris de pitié, et d'autres traductions disent de compassion. Et c'est ça que Jésus montre. Pourquoi il guérit tous ces gens? Parce qu'il est là au milieu d'eux, il est Dieu, il voit toutes ces conditions, il voit toutes ces brebis perdues d'Israël, il voit tous ces besoins, et il donne, et il donne, et il donne, il guérit, il bénit, il chasse les démons. Voilà le royaume que Dieu est venu amener. Un royaume de puissance, mais une puissance au service de l'amour. Dieu veut avant tout nous montrer son amour. Il utilise sa puissance pour nous montrer son amour. Il ne veut pas se poser comme le grand Dieu restant loin. Non, le grand Dieu qui s'approche. Et il a trouvé ce moyen des miracles pour nous montrer combien il nous aime. ému de compassion. Jésus ne peut pas résister. Pareil, cette série The Chosen n'est pas la Bible, attention. Mais c'est tellement, ça nous montre, ça nous aide à réaliser des choses. Et je me rappelle de ce passage, je ne sais plus dans quel épisode, quelle saison, où Jésus est épuisé. Vous savez, il y a tous les disciples qui sont autour du feu, ils n'en peuvent plus. Ils ont fait des temps de ministère, des temps de prière, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient toute la journée. Mais ils sont rentrés se restaurer autour du feu. Mais Jésus, non, il reste, on ne le voit pas, il n'est pas là. Et on imagine encore venir toucher, chasser des démons, oui, accueillir l'orphelin, tac. Et il fait ça. Et d'un coup, on le voit arriver au feu. Et il est épuisé, il ne peut plus, presque plus marcher. Sa mère, qui est là aussi, le soutient. Et elle le prend sous son aile et elle l'amène à l'écart pour lui donner à manger, le restaurer, parce que presque il pourrait mourir tellement il s'est déjà donné. Jésus est venu pour se donner, parce que Jésus est avant tout venu nous montrer son amour. Et voilà le royaume qu'il est venu nous montrer. Merci Jésus. Merci Seigneur. Voilà, j'ai fini. Donc, je vous propose, merci Seigneur pour ta parole, merci pour ce premier chapitre de Marc. Il y aurait tellement plus à dire, mais voilà les choses qui m'ont le plus marqué pour nous ce matin. Je vous invite juste à finir en priant. Amen. Amen. Si vous voulez, vous avez à cœur de recevoir encore cet amour, je vous invite juste à vous lever.